la halakha, la conversion des hommes, pas des femmes. J'aurais même pas dû vous citer ça, il faudrait que j'explique, et j'ai pas le temps. Mais enfin, dans tous les cas, c'est une halakha qui avait force de loi, tant qu'on savait diagnostiquer qui est de l'Amon et qui est de moi vraiment. Mais depuis, c'est le temps de Nabucodonosor, enfin c'est Sennacherib surtout, ce temps-là, depuis la destruction du premier temple, toutes les nations se sont mélangées. Depuis ce temps-là, il faut être très très prudent quand on diagnostique qui est quoi, du point de vue de l'identité humaine. Il y a très peu de lignes humaines qui savent encore d'où elles viennent. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay. Mais ça existe. En France, il y a énormément de cosmopolites de citoyenneté française, mais il y a quand même des Français. Et en Allemagne, il y a des Allemands, etc. C'est rare, mais ça existe. Et alors, pour savoir comment les diagnostiquer, c'est au jugement dernier, Dieu seul qui reconnaîtra les siens. Par conséquent, pour la loi rabbinique, quand quelqu'un dit « je m'appelle Amoni », on ne le croit pas forcément. Je ne sais pas si c'est clair ce jeu. Ça veut dire qu'on ne lui applique pas forcément le fait qu'il ne soit pas convertible. Comment on dit ? On dit comme ça en français ? Convertissable. Alors, là, il y a Amoni au Moavi, Vika, Lachem, et ça se relie d'ailleurs à ces événements dont je vous ai parlé au début de l'étude. Gamdor Assyrie, jusqu'à la dixième génération. Lo Yavolahem, Bikal Hashem, Alolam. Je continue, je ne traduis pas, donc ça, ce n'est pas notre sujet vraiment. Aldebar, Asher Lokidemo Etrem, Balechem, Amaim, à cause du fait que, ils ne vous ont pas, Kidemo Etrem, vous savez, ils ne sont pas allés à votre rencontre. Au moment de la sortie d'Égypte, vous vous rappelez, je vous avais dit, ces peuples faisaient obstacle. Ils ne sont pas allés à votre rencontre avec du pain et de l'eau, de l'hospitalité, va derrière sur le chemin, Betsetrem Mitzrayim, quand vous êtes sortis d'Égypte, va cher Sachar la Alecha et Bilaam ben Beor, et à cause de ce qu'il a engagé contre toi, Bilaam, fils de Beor, mi Petor Aram, de Petor Aram, on voit de nouveau l'identité aramène derrière, Naharim, les Kalelecha, pour te maudire. Verset 6. Velo Ava Hashem Elokecha, Bishmoa El Bilaam. Et Hashem, ton Dieu, n'a pas accepté d'écouter Bilaam. Vayafor Hashem Elokecha Lecha. Et Hashem, ton Dieu, a inversé. Vayafor, c'est inversé. Aidez-moi à traduire en français. Vayafor. Ça a aussi un autre sens. Hein? Inversé, mais il y a. Je vous en parle. Il y a un autre mot, vous ne l'avez pas en tête? Non, bouleverser et renverser, c'est inversé. Non. Mais c'est inversé, bouleverser. Bon, oui, on pourrait dire que ça existe.
C'est changer en son contraire.
Exact. Vous gardez l'idée. Changer en son contraire. Hein? Gardez l'idée. Et Dieu a inversé pour toi et ta kelala libracha. La malédiction en bénédiction. Qui a revécha Hashem Elokecha. Car Dieu t'aime. Vous voyez, il y a ici un enseignement extrêmement important concernant tout ce problème dont je vous ai parlé, de la médisance, de la calomnie, de la propagande, etc. Et il n'y a que l'amour qui est capable d'inverser le mal en bien. C'est-à-dire, si quelqu'un entend dire du mal de quelqu'un qui l'aime, eh bien, il va tout de suite réintégrer de quoi il s'agit vraiment. Vehevedam et kola adam le kaz de chout. Je ne traduis pas parce que ça mènerait trop loin. Vous voyez, alors ce qu'on va mettre en évidence à travers ce thème, c'est que joue pour Israël une force qui explique un peu le mystère, mettez le mot mystère entre guillemets, de sa permanence à travers l'histoire. Il y a en Israël la force d'inversion des contraires. La force d'inversion des contraires qui joue à tous les niveaux de l'existence, à travers le temps, à travers l'espace, dans l'identité de la personne humaine. C'est un cas particulier dans l'histoire des sociétés. Si on peut étudier toute l'histoire d'Israël pour comprendre ce phénomène de la permanence d'Israël à travers les civilisations, Netzar Israël, à travers cette catégorie. C'est parce qu'il y a en Israël cette capacité d'inverser les contraires. Ce qui était du passé, vous suivez ? Vous arrivez à m'entendre quand même bien ou mal, c'est pas ça. Si vous m'entendez, ça suffit. Cette capacité de faire que ce qui était du passé devient du futur. C'est l'exemple qu'on raconte le plus souvent. La capacité de la tchouva, c'est le fait que ce qui était du passé devient du futur. Si vous étudiez en grammaire grecque, le passé, c'est le passé révolu, le futur, c'est le futur non encore accompli, et il y a le présent. Dans la grammaire hébraïque, il n'y a pas de présent. Il y a un passé qui peut devenir du futur et un futur qui devient du passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, que dans la grammaire hébraïque, il n'y a pas de présent. On ne peut pas dire en hébreu « je suis ». Comme on le dit dans une langue comme le français, avec le verbe « être au présent ». Regardez, en français, il y a ce verbe « être » quand il sert d'auxiliaire, il n'y a pas de correspondant en hébreu. Par exemple, en français, on peut dire « je suis assis ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « je suis assis » ? Je ne suis pas assis, je suis un homme, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que je suis vraiment ? Je suis assis. De quoi il s'agit ? Vous voyez, c'est une catégorisation de la réalité qui n'a rien à voir. Alors, vous remarquerez cela que en français, il n'y a pas de présent. Seul Dieu peut dire « je suis ». Remarquez bien ça. D'ailleurs, quand Moïse demande à Dieu sous quel nom il va parler de lui, et Dieu lui répond, j'hésite, et surtout ne m'interrompez jamais, vous allez me faire bifurquer. C'est parce qu'en hébreu, c'est un futur. Je serai ce que je serai. Et les traducteurs disent « je suis qui ce que je suis », ce qui ne veut rien dire. Mais je donnerai un autre exemple en hébreu pour que vous compreniez encore une fois que les catégories verbales de l'hébreu n'ont rien à voir avec une langue gréco-latine comme le français. En français, on dit « j'ai ». En hébreu, on ne dit pas « j'ai », on dit « il y a à moi », »,« il y a pour moi ». Il y a une « yesh li », on ne dit pas « j'ai ». Il y a une conception morale radicalement différente. Qu'est-ce que ça veut dire « j'ai »?« Je possède », »,« ça m'appartient ». Vous avez tout de suite une mentalité d'impérialiste. On dit « il y a pour moi », c'est tout à fait autre chose. Bon, pour vous donner cet exemple, je voulais simplement vous signaler cela. On utilise en hébreu le participe présent. Je suis en train d'exister, je suis en train de faire exister ceci ou cela. En train de. Ce « en train de », le même du participe présent, c'est la transformation du passé en futur, et pendant ce temps-là, le futur se rend en passé. Vous avez compris la différence. Être en train de. Et je n'ai trouvé cette forme-là qu'en anglais. Et j'ai beaucoup cherché pourquoi il y a cette forme-là en anglais. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Ça s'appelle la forme progressive en anglais. C'est parce que l'anglais, comme langue littéraire, s'est constitué sur les traductions de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, d'une façon générale, l'anglais littéraire est la langue la plus appropriée aux traductions de la Bible. Quand on traduit un texte hébreu en anglais, ça garde son sens. Dès qu'on le traduit en français, c'est très difficile. Il faut le traduire en français poétique pour que ça puisse suggérer un peu une des harmoniques du sens hébreu. Tandis qu'en anglais, ça passe. Vous remarquerez ça par l'expérience. Alors je me suis renseigné, finalement, on m'a expliqué que ça vient de ce que l'anglais classique, c'est une langue qui s'est formée, c'est très compliqué dans le processus, mais qui s'est formée à propos des traductions de la Bible. Bien, je reviens à vous. Et alors, il y a une analogie avec le... Enfin, une analogie. Il y a des liens entre l'Angleterre et Israël qui sont extrêmement mystérieux, puisque c'est de la main des Anglais qu'on a reçu Eretz Israël. Il faut dire qu'on les a aidés un peu, mais enfin, c'est quand même eux qui en ont. Ce sont les Anglais les premiers qui ont diffusé la Bible au niveau où ça a été diffusé. La diffusion anglo-saxonne de la Bible, c'est quelque chose de faramineux. C'est quand même eux. J'avais étudié dans un auteur qui s'appelle Miloš, je ne sais pas si ça dit quelque chose, un auteur contemporain d'origine lituanienne, je ne sais pas s'il est encore vivant d'ailleurs, et il avait dit, mais très sérieusement, qu'il y a deux peuples qui ont des prétentions sérieuses à se réclamer d'une origine hébraïque, ce seraient les Basques et les Anglais, et plus exactement les Angles que les Anglo-Saxons. Saxons, c'est autre chose. Et il expliquait ça de manière assez amusante, mais je crois que lui prenait ça au sérieux. C'est pour dire anglais. En anglais, on dit British, homme de l'Alliance. Vous remarquez ça? Et Il avait beaucoup d'analogies de ce genre. En tout cas, pour les Basques, il les appelle des Ibères, et que les Ibères seraient des Ivrines. Enfin, il a d'autres arguments, je dois dire. Bon, je vous cite ça comme quelque chose de, comment dire en français, de piquant. Mais enfin, il y a quelque chose entre les Anglais et Israël. Pour faire plaisir aux Français, je dis souvent en contexte français, nous avons quelque chose de commun entre Jeanne d'Arc et nous, parce que les couleurs du drapeau de Jeanne d'Arc et les couleurs d'Israël, c'est les mêmes. Je sais pas, vous avez vu la bannière de Jeanne d'Arc, c'est les mêmes couleurs, bleu et blanc. Et puis généralement, nous avons quelque chose de commun, tant Jeanne d'Arc que les Juifs ont bouté les Anglais dehors. Et c'est une coïncidence importante. Ceci dit, voilà le verset que je voulais mettre en évidence, c'est cela. Vayahar et à Kalala Librar. Alors, ça y est, c'est une introduction. Je résume qu'on a réfléchi sur deux notions. Qu'est-ce que ça veut dire un prophète des nations? Et qu'est-ce que ça veut dire cette stratégie de la malédiction? Je crois que finalement, ça suffit comme introduction. Alors, nous allons étudier un texte que j'ai demandé qu'on vous prépare. Et je vois que l'heure est très avancée, comme d'habitude. Quelle heure il est? On a quand même une demi-heure. Alors, j'aurais voulu profiter aussi pour vous faire étudier le texte qu'on n'a pas pu étudier la dernière fois, c'est-à-dire il y a 15 jours, sur la marloquette à propos de Korah. Et alors, puisque le texte a été tiré quand même, vous allez le prendre après le cours et l'étudier par vous-même. Alors, prenez en tout cas celui-là. Nous allons prendre le début de notre paracha dans Balak, d'abord. Je lis les deux premiers versets. Alors, nous sommes au chapitre 22, verset 2, dans Bemidbar cette fois. On y va? Alors, Vayar Balak Ben Tzippor, et Balak Ben Tzippor, Vayar, il vit, et Kol Asher Asa Israël à Emori, tout ce que Israël avait fait à l'Amoréen. C'est, vous êtes dans les textes précédents. Israël a dépossédé les Amoréens, Emori en hébreu, des possessions que les Amoréens avaient pris à Moab. C'est clair? Alors, c'est de ça que tu veux m'enlever ça. C'est de ça que Moab va prendre conscience. Verset 3. Vayagor Moab mipenéaam meot. Et Moab prit peur. Vayagor en hébreu, c'est avoir peur, mais un peu plus qu'avoir peur. Ça ne va pas jusqu'à être terrifié. Est-ce qu'il y a en français un mot?
Crainte,
oui. Non, paniquer, ce n'est pas joli, mais c'est le sens. À cause du peuple, grandement, qui ravoue, car il était nombreux, le peuple, va à cause Moab, et Moab fut découragé, mi pene bene Israël, à cause des enfants d'Israël. Le raisonnement est que si les enfants d'Israël sont capables d'être victorieux de ceux qui avaient été victorieux de Moab, alors à plus forte raison qu'ils seront victorieux de Moab. C'est clair le raisonnement. Vous verrez vous-même la suite du verset et on va s'appuyer sur ce verset pour commencer à lire ce texte. Alors, comme d'habitude, je vais lire directement en hébreu et en français. En principe, le texte est suffisamment clair, mais s'il est nécessaire d'avoir des explications supplémentaires, faites-moi signe. Vayagor Moab ipene Aam, et Moab fut dans la crainte devant le peuple. Yeboua, cela sera expliqué, Beaskir Mahamaram, en mentionnant un de leurs enseignements, des maîtres, des sages, Ktiv, il est écrit, Yotzeror Borera. Il est écrit, suivez sur le texte, ça me gêne quand vous me regardez quand je lis, suivez sur votre texte. Et c'est un verset qui se trouve dans Esaïe. Il est écrit que Dieu est celui qui forme la lumière et qui crée le mal. Mais Karinan, mais on lit dans la prière, quand on cite ce verset, on ne dit pas qu'il forme la lumière et qui crée le mal, mais on lit Ouvore ta kol et qui crée tout. Alors, en s'appuyant sur ce que la tradition va enseigner sur ce verset, on expliquera la raison pour laquelle Moab a eu peur d'Israël. Lishna Ma'aliyah, dit la Gemara, c'est dans Brachot, page 11. Lishna Ma'aliyah, ça veut dire que l'expression et qu'il crée tout est supérieure à l'expression et qui crée le mal. Mais le prophète a dit qu'il crée le mal. J'explique ça très rapidement. C'est un sujet qu'il faudrait une fois étudier en détail, mais il faut des heures. Pourquoi le prophète peut dire que Dieu crée le mal? Il crée le monde. Alors, très rapidement, je l'explique d'après l'enseignement d'un très grand kabbaliste contemporain, qui est le Rav Ashlag. Je veux dire, cet enseignement est connu depuis toujours, mais la forme qu'il lui a donnée, c'est que le fait de créer une créature, c'est le fait de créer, et c'est ça qui définit la créature, quelqu'un qui reçoit l'être. Mais recevoir l'être avant de l'avoir mérité, c'est ça être en cas de mal. Donner l'être, c'est le bien. Recevoir l'être, c'est le mal. Par conséquent, nous sommes condamnés d'une certaine manière à avoir un yetzer hara, à avoir un instinct du mal. L'instinct du mal, c'est quoi? C'est recevoir sans avoir mérité. Ça, c'est la définition de base du judaïsme. Dieu nous crée, donc nous sommes des capacités de réception. Mais tant que nous sommes que ça, nous sommes en mal. Le mal d'être, c'est d'avoir été créé. Parce que nous ressentons que le bien, c'est de donner, mais nous n'existons que parce que nous recevons. Est-ce que c'est clair? Oui, le drame de la créature humaine. Par conséquent, il faut recevoir d'une certaine manière pour pouvoir mériter d'avoir reçu. Et c'est recevoir en vue de donner. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas trop compliquer cela, c'est beaucoup plus vaste comme analyse, mais si je reçois en vue de donner, alors j'ai le droit de recevoir. Tant que je reçois pour recevoir, j'ai honte de recevoir. Mais si je reçois en vue de donner, alors je suis, comment dire, libéré de cette honte, et au contraire, je reçois avec joie. Bon, c'est le problème de l'égoïsme et de l'altruisme. Tout problème moral tourne autour du conflit entre l'égoïsme et l'altruisme. Alors les philosophes ne s'en sortent pas. C'est l'altruisme qui est le bien, l'égoïsme c'est le mal. Alors on va mettre en évidence, on va glorifier l'altruisme et condamner l'égoïsme. Mais on passe sous silence le fait que on n'existe pas si on n'est pas égoïste. Est-ce que c'est clair ce sujet? Dans l'égoïsme, il y a moi d'abord. Dans l'altruisme, il y a l'autre d'abord. Mais si moi, je n'existe pas, comment je peux être pour l'autre? Vous comprenez l'organisation de la Mishnah. Et par conséquent, la seule attitude qui purifie, si vous voulez, cet instinct de recevoir qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est de recevoir envie de donner. Et alors, ça définit l'option juive dans l'existence. Recevoir le plus possible en vue de donner le plus possible. L'échec, c'est de s'arrêter au milieu. L'échec, c'est d'être recevoir le plus possible. Un point. Ça, c'est l'échec de l'identité juive. Et très souvent, les juifs sont calomniés parce qu'on ne perçoit que cet aspect-là, recevoir. On ne se rend pas compte que c'est recevoir en vue de donner. C'est la seule équation qui résout le problème de l'identité humaine. Parce que recevoir pour recevoir, ça c'est le rachat, le mal. Donner pour donner, c'est l'idéaliste insensé qui fait comme s'il ne reçoit jamais. Vous savez, l'art pour l'art, au niveau de l'existence, ça mène à la folie. Ce sont les gens qui font comme s'ils ne font que donner. Et alors ils se cachent pour recevoir. J'ai connu beaucoup de gens comme ça, des idéalistes sincères, mais qui avaient un appétit de jouissance, comme n'importe quel être vivant normal. Alors, ils se cachaient pour profiter de la vie, parce que leur, témoignage, c'était l'idéal pour l'idéal. Et alors tu ne manges pas, tu ne respires pas, tu ne dors pas. Qui te fait respirer? Qui te fait manger? Qui te fait dormir? Tu ne reçois pas? Oui, cette gêne de l'ascète qui fait semblant qu'il n'est là que pour donner alors qu'il ne reçoit pas. Et là, il se mortifie, mais finalement, c'est pas l'objet du Créateur de créer des ascètes. C'est un peu une blague, mais c'est pas tellement une blague. Il y a un raté de la chassidoute qui consiste à être un chassid ascétique. Vous avez entendu parler de l'acide ascétique? Mais c'est un raté de chassidoute. Il y a des chassidines qui sont des ascètes, mais c'est pas la chassidoute originelle du Baal Shem Tov. En tout cas, pour revenir au sujet, vous rangerez ça dans un coin de la mémoire. C'est une étude qui mériterait que nous ayons sur texte. Je vous signale, les livres de Rav Ashlag sont des livres qu'on peut étudier seul, à condition d'avoir un maître. C'est le Ratzon Lekabel et le Ratzon Lehashpia. Alors, Lekabel, Almenat Lekabel, Lehashpia, Almenat Lehashpia, Lehashpia, Almenat Lekabel, et finalement, la vertu réelle, c'est Lekabel, Almenat Lehashpia. Ça s'appelle la Chochma dans la Torah. Je ne vais pas traduire. Alors, ça vous explique un enseignement du Talmud qui est très peu compris. Le Talmud enseigne que l'enfant, jusqu'à la bar mitzvah, n'a que le Yetzer Hara. Et c'est pourquoi il n'est pas soumis aux mitzvot. À partir de la bar mitzvah, il a le Yetzer Hara. Alors c'est pourquoi il est soumis aux mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à la bar mitzvah, il n'a que l'identité qui consiste à recevoir. Et il n'a aucune culpabilité de recevoir. Je crois l'erreur des éducateurs, des parents éducateurs, qui empêchent les enfants de recevoir en leur donnant des remords, de recevoir, c'est la pire des crimes qu'on veut faire pour ses propres enfants. C'est-à-dire, tant qu'un enfant est un enfant, il faut l'aider à être enfant. C'est-à-dire, constituer ses véhicules de réception, comme on dit en hébreu. Parce que, toute sa vie, il ne remplira que les kelim de Kabbalah qu'il a préparés enfant. Alors, vous avez des hommes et des femmes qui, toute sa vie, toute leur vie, etc., courent après une enfance qu'ils n'ont pas eue. C'est de là que ça vient. Je ne sais pas si c'est clair ce jour. Parce qu'on ne pourra recevoir d'être que ce qu'on est capable de recevoir, ni plus ni moins. Et alors c'est jusqu'à la bar mitzvah qu'on prépare cet appétit d'être. Alors si les parents, les éducateurs contrarient cet appétit d'être, eh bien c'est le plus grand crime, ça s'appelle Gnevat Da'at. Ben, c'est clair. Et seulement, pendant ce temps-là, l'enfant n'est pas bar mitzvah, mais il est bar chinour. C'est-à-dire qu'il faut le préparer à devenir l'être moral qui sera à partir du moment de la bar mitzvah. Donc il faut lui donner une éducation qui est dirigée vers le scrupule de l'obligation morale. Mais jusqu'à la bar mitzvah, il n'a aucune obligation en tant qu'obligation. C'est le père qui a obligation pour le fils. Et le père a obligation d'initier le fils à devoir être un jour soumis à obligation. Ah oui, une période de l'enfance qu'il faut protéger jusqu'à la bar mitzvah. Et pourquoi c'est à la bar mitzvah que le Yetzer Tov entre dans l'âme de l'enfant? C'est parce que la bar mitzvah, c'est le moment de la puberté, c'est quand l'enfant est capable naturellement de donner la vie à son tour, qu'il est soumis à l'obligation du donner. Mais jusque-là, il n'existe que pour recevoir. Est-ce que j'étais suffisamment clair, hein? C'est-à-dire qu'il faut donner aux enfants, pas les gaver, mais leur donner, et surtout les déculpabiliser de cette culpabilité de l'enfant que recevoir, c'est mal. L'enfant a le droit d'être heureux de recevoir sans complexe, sans remords, sans scrupule. Voilà, c'est ce que le Rav Ashlag a remis en évidence sur l'enseignement du Talmud. Est-ce que c'est clair le problème? Bon. Et alors, quand vous aurez des enfants, dès que j'ai parlé des enfants, il est parti, vous rendez compte. Bien. Quand vous aurez des enfants, faites bien attention à ça. Parce que ensuite, ça fait des édipes. Vous voyez d'où ça vient les Grecs? Tandis que les enfants d'Israël parlent aux enfants d'Israël comme enfants. Et puis, c'est toute une série d'enseignements qui tournent autour de ça. Alors, ça j'ai expliqué où Boré est à col. Pourquoi le verset dit où Boré est rare? On continue. Les Kadvoua me forashi, mais les commentateurs ont écrit qui Yeshnam devarim shen l'eratzma menam tovim, il y a des réalités dans le monde qui par elles-mêmes ne sont pas bonnes, kegon, melach, ou pilpelin, ou etablin, par exemple le sel, le piment ou les épices, shen, bifne atzmam, enam revim l'achila, qui par eux-mêmes ne sont pas destinés à être des aliments. Aval, keshatam et arevotam, mais quand tu les mélanges, ou metaveloahem, et quand tu épices avec eux, hem, mematikim, mematrimim et tamahachal. Ils adoucissent et donnent du goût à la nourriture. Velorod, ela, shei, efchar, les mahachal, l'adehem. Et plus que cela, on ne peut pas manger sans sel, on ne peut pas manger sans piment. Là, vous avez les gens qui mangent avec du sel, les gens qui mangent avec du piment et les gens qui mangent avec la moutarde. Ça s'établit. Résective, c'est pourquoi le verset porte le mot de Ra, qui crée le mal, le Karina Nakol, et nous lisons le tout, l'Ishna Maraya, et c'est une meilleure expression. Chez Abriya Bichlala, la créature dans son ensemble, suivez bien, Ritova est bonne, Shegam ara mistaref et naaseto. Parce que dans son ensemble, même le mal, mistaref, s'adjoint et devient bon. Si je vois tout ce qui existe dans l'ensemble, c'est de l'ensemble que le Fessali et Dieu vu que c'était bon. Si j'isole un des éléments qui tout seul est mauvais, alors tout seul il est mauvais. Est-ce que l'idée est suffisamment claire? Je pense pas que ce soit difficile. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas suffisamment. Bien. Et pas complètement, hein? Oui. Alors je continue, après la fin du paragraphe, on revient. Et cet exemple est valable aussi pour. Est-ce qu'il y a des pharmaciens parmi vous? S'il y a des pharmaciens parmi vous, vous comprenez mieux ça. Il y a des substances qui, dans des ensembles, deviennent bénéfiques, mais toutes seules sont maléfiques. C'est dans l'ensemble que tout est bon, même la substance qui toute seule serait maléfique. C'est clair, c'est plus clair. Mais c'est vrai à l'échelle métaphysique de la création tout entière, mais le Rav va prendre l'exemple du peuple d'Israël. Vous vous souvenez, je vous ai souvent cité, et chaque fois que je dois citer ça, j'oublie qui a dit ça. Je crois que c'est Herriot qui a dit ça, mais c'est un homme politique qui s'appelait Édouard Herriot. Il me semble que c'est lui. Qui, en parlant des Juifs, disait « Le peuple d'Israël, dans son ensemble, est un peuple de géants. À l'échelle individuelle, toutes les chazvei shalom sont possibles. » Comment traduire ça en français? À l'échelle individuelle, ça peut être des crapules. Bon. Et il parlait des Allemands. Ça m'a frappé parce qu'il y avait les deux à la fois. Les Allemands, c'est l'inverse. À l'échelle individuelle, les Allemands peuvent être des grands hommes, des géants. En tant que collectivité, ils sont capables de devenir des nazis. Vous voyez à peu près la différence. Allez, il va parler de ça. Védouma zo noeget gam be'am Israël. Sheafralpi sheyesh beneihem resha'im. Il s'agit du peuple d'Israël, bien que parmi eux il y ait des méchants. Mikomakom bichlalam. De toute façon, malgré tout, bichlalam dans leur ensemble. Kulam ke'echad, tous ensemble, hem tovim. Ils sont bons. Kema amara. Kol Israël, Israël chregalam. Bichlal. Quand Israël et tous ensemble, Kol Israël, Israël Féré, voilà. En tant que chacun est fait partie d'un klal. Kol se relie à klal. Kema Amaram, d'après leur enseignement sur le verset du Cantique des Cantiques, Dodili Vanilo, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, Aroé Vashushanim, c'est un berger de roses, c'est-à-dire il fait paître, mais ce qu'il fait paître, c'est des roses. Aroé Vashushanim. Ma Shushanim Kotsi Metsuim Betoham. De même que les roses, il y a des épines parmi elles. Afakados Baruchu Manig Olamo Vetsaliki Moshaim. De même, Dieu dirige son monde avec les justes et les méchants. La rose et les épines. C'est dans Zohar Shemot. Vamrou, et on a enseigné Kol Ta'ani, tout jeune, un jeune, le fait de jeûner. Okay? Chez Nbenehem Pocha Israël, où il n'y a pas parmi l'assemblée des fauteurs d'Israël, Ena Ta'ani, ce n'est pas un jeune. Minalam, Misamemane Aktore. Et d'où savons-nous cela? Elle aurait fait. Oh, c'est dans le Kritut, chapitre, page 6. Nous savons de l'encens. Dans l'encens, il y avait 11 ingrédients. Un d'entre eux est un ingrédient très très mauvais, très amer, non, plus qu'amer. Comment on dit? Pas toxique, une mauvaise odeur. Mais l'ensemble, et les parfumistes, comme on dit, les parfumeurs savent ça. Il y a des éléments, des parfums les plus subtils qui sont, lorsqu'ils sont tout seuls, des odeurs épouvantables. J'ai oublié comment ça se dit en français, cet élément-là qu'on met dans le parfum pour ça.
Le musc.
Le musc, par exemple, oui. Bon, passez la phrase suivante, on va tout de suite aborder le deuxième paragraphe. Basé Yeshle Baer Mahamar Balak le Bilam. Et par là, on peut comprendre ce que Balak a dit à Bilam. L'Echana, va donc, iti avec moi, et maudit ce peuple. Efet kaseu tire. Alors, vous allez prendre le texte, parce que sinon, vous allez prendre. Alors, reprenez Dvarim, et vous allez prendre au. Chapitre 23. vous allez prendre chapitre 23, verset 13.
Dans
Balak, que j'ai dit, Dvarim. Non, j'ai trompé. On est dans Balak. Vous allez prendre chapitre 23, verset, qu'est-ce que j'ai dit, 13. Hein. Quelle heure est-il? Oui, rapidement. Vous allez garder la page, parce que j'ai plus de temps, mais je vous explique, gardez la page quand même. Je vous explique le sujet. Lorsque Balak s'aperçoit que Bilam, au lieu de maudire, bénit en réalité, vous vous rappelez du verset qu'on a appris dans le Devarim, que Dieu a fait changer la malédiction en bénédiction. Alors, Balak se plaint devant Bilam, je t'ai appelé pour les maudire et tu les bénis. Alors voilà ce que dit Balak. Vayomer Elav, verset 13 du chapitre 23. Vayomer Elav, il lui dit, Balak, Lech Naïti, viens avec moi. Et le Makomacher dans un autre endroit, Asher Tirenu Misham, où nous pourrons le voir de là-bas, voir Israël. Efet Katseu Tire, Vechulo Tire. Tu verras une partie d'entre eux, et tous ensemble, tu ne les verras pas. Vekovnoli Misham, et de là-bas, tu pourras le maudire. Voilà, l'idée est très claire. Laissez-moi expliquer. Et vous allez le voir dans le texte. C'est-à-dire, tant que Bilam avait en face de lui l'ensemble du peuple, il ne pouvait pas maudire. Parce que dans l'ensemble du peuple, c'était un peuple comme tout ensemble, qui est tout en bien. Mais il conseille à Balak, on va prendre un point de vue, on ne verra qu'une partie d'entre eux. Et alors, si tu as en face de toi une partie d'entre eux, tu pourras les maudire. Vous avez compris? Je fais un court-circuit, après vous aurez la parole si vous avez des questions. Il me reste 5 minutes. Mais relisez le texte, il l'explique de manière tellement belle que je ne veux pas aller trop vite là-dedans. Relisez par vous-même. Je fais confiance à votre connaissance de l'hébreu. Vous voyez pourquoi l'idée de unité nationale est si importante en Israël. Dès qu'il y a une partie d'Israël, tous les défauts apparaissent. Quelle que soit la partie d'ailleurs. Quand Israël est tout entier ensemble, alors il est invincible. Voilà, c'est l'idée que je voulais introduire, et on l'apprend de ce verset. Si tu ne parles que d'une partie d'entre eux, tu peux dire les défauts. Mais si tu les vois tous ensemble, tu ne peux pas. Tu es obligé de reconnaître un peuple de géants. Vous avez compris l'idée, hein? Alors je crois que ça te fait mieux comprendre ce qu'il disait tout à l'heure pour la création du entier. De la même manière, et ça c'est un enseignement d'un très grand Rishon Lezion, c'est le Rav Uziel. Est-ce que vous avez entendu parler du Rav Uziel, qui était le plus grand des Rishonim Lezion des jeunes générations, qui était en même temps que le Rav Kook, le père. Le Rav Uziel a expliqué un verset des psaumes sur une idée extrêmement parallèle. Le verset des psaumes, c'est un psaume qu'on dit les Shabbat matin, je le connais. Mishpete Hashem Emet Tzaddeku Yahdav. Les jugements de Dieu sont vérité, ils sont justes tous ensemble. C'est-à-dire, si on prend une mitzvah, isolée, on ne la comprend pas. Si on voit tout ensemble, alors on va commencer Tzaddeku Yahdav, que c'est Tzedek dans l'ensemble. J'utilise chaque fois ça, c'est le Rav Uziel qui a expliqué ça. Très souvent pour expliquer ceci. Nous avons un enseignement, c'est que chaque membre d'Israël a une fois dans sa vie au moins, il y a des privilégiés, l'expérience du Sinaï. C'est-à-dire que dans l'étude, il se révèle sur un point de l'étude et chacun c'est subjectif. C'est jamais le même pour quelqu'un d'autre en même temps. C'est la révélation absolue qui se révèle, que c'est la vérité absolue qui se révèle. Et si vous entendez ce thème dans l'enseignement, que tout Israël, il lui est réservé dans sa vie une expérience de comprendre, ne serait-ce que de façon furtive, que le monde a un sens. C'est vrai d'ailleurs, quand je dis tout Israël, c'est pour la Torah. C'est vrai pour tout homme, concernant le sens de la destinée humaine. Inévitablement, le jeu de la vie fait que on ne peut pas ne pas rencontrer une fois cette expérience que il y a un sens. Et puis ça se cache. Et on ne sait pas expliquer, mais on a eu une expérience de ce genre. Je vous donne dans l'histoire de la littérature, ce qui me vient à l'esprit, c'est arrivé souvent, mais l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est la nuit de Pascal. Voilà, Pascal, une fois, une révélation. Tout a un sens, je l'ai su sur un point. Il y a un procédé du raisonnement qu'on appelle en logique, le raisonnement par récurrence. Vous avez entendu parler de ça? C'est-à-dire, si j'ai la preuve sur un point, il y a un raisonnement d'induction par récurrence qui fait que... Alors, c'est vrai pour l'ensemble. C'est pourquoi c'est une des critères qui nous permet de diagnostiquer si on a affaire à un vrai Talmid Chacham. Quelqu'un qui vous dit, ce passage de la Bible, j'admets, c'est très beau, mais ce qu'il y a à côté, je suis contre. J'admets pas. C'est la preuve qu'il ne sait pas réfléchir. Est-ce que, je ne sais pas si c'est clair. Parce que la Bible, c'est un ensemble. Et si c'est vrai sur ce point, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas vrai sur un autre point. S'il y a une espèce d'attitude, je ne sais pas comment, inculte, de ne pas se rendre compte de quel genre de phénomène on parle quand on parle de l'ensemble du texte biblique. Eh bien, vous voyez, tout cela est assez parallèle. Ça veut dire qu'il y a une capacité à pouvoir savoir de quoi on parle lorsqu'on parle d'un ensemble. Et alors, cet enseignement me semble très important comme un de ces exemples. Je reviens au verset à propos duquel ceci était enseigné. Vous verrez vous-même dans le texte. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, en isolant un élément d'un ensemble, le critiquer, et la critique est juste. Où est-ce qu'il y a médisance? C'est dans l'intention de dire le mal d'eux. Et vous voyez que Bilam était incapable de dire le mal d'Israël dans son ensemble. Mais il serait capable de dire dans telle ou telle tendance, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez bien compris l'idée? Ce soir, je ne sais pas si c'est le climat qui m'oppresse, mais j'arrive à parler que difficilement. Mais j'espère que l'idée est suffisamment claire. Bien, alors je voudrais vous dire deux choses. Je m'aperçois que le jour se fait de plus en plus tard. Pour faire orbite, il faudrait qu'on attende les étoiles. Remarquez, c'est dans pas longtemps, je pense. Alors, je vous propose ceci. De toute façon qu'on commence le cours à 6h30. Mais pour ceux qui font Mincha, je vous demande instantanément de venir à 6h15. Parce que je ne veux pas qu'on commence Mincha plus tard. Je veux dire pourquoi. Quand il y a deux Mincha en compétition, la Mincha de Talmud Torah passe avant la Mincha de la prière. Et je n'ai pas le droit de retarder le cours parce qu'on est en train de faire Mincha. Je sais bien qu'il y a des gens pieux qui pourraient penser le contraire. Mais je vous dis la loi comment elle est. Et donc le cours commence à 6h30 et Mincha à 6h15. Je vais regarder personne. Et alors que si vous la partez la semaine prochaine, le cours pourra continuer un peu plus tard que 8h. Ceux qui sont obligés de rentrer à 8h, c'est pas grave. J'essaierai d'arrêter le sujet général à 8h et on continuera jusqu'à la nuit pour dire arbitre, en tout cas pendant les jours d'été. Ça vous va? Vous avez remarqué que j'ai demandé votre avis pour ce que j'avais décidé.
On peut commencer un peu plus tôt en refaisant en schéma Israël.
On peut commencer le. Oui, ça fait rien, mais c'est mieux de faire Kriyat Shema ensemble. C'est mieux. Oui, on reste pour Arbit. Oui, tout de suite, on va faire la boucle. Tiens, dis-le. Oui, mets-le. On fait Arbit tout de suite.
Oui. Les hommes restent pour Arbit. Parce que c'est dans le coup, c'est
gagné. Regarde, tu fais jamais ça notre fois. Tu ne fais jamais ça. Tu es contrarié.
Je m'excuse, oui.
Tu es fatigué tout.
Oui, j'avais tellement peur d'oublier.
C'est interdit par le chemin.
Bon, alors si tu me dis, il n'y a pas de problème, je ne le ferai plus.
Et puis, il n'y a plus de faire.
Oui, d'accord. Non, mais j'ai été angoissé d'oublier. J'ai tout à compris ouvrir ça.
C'est pas grave. Je l'aurais oublié, à toi.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est là, je ferai comme tu dirais, hein, Bayon.
Tu vois?
Ah, je ne sais pas qui c'est.
Tu enlèves ça?
Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, d'ailleurs. Qui
C'est pas moi, c'est ta.